RFI, 7h, à Paris, 6h en temps universel. Bonjour Marion Cazeneuve.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, la trêve Israël-Hamas, une fois de plus fragilisée.
À cause des conditions dont se déroulent les échanges d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens, Israël envoie des négociateurs au Qatar aujourd'hui pour discuter de l'accord de trêve. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la RDC, c'est ce que demandent les pays membres de l'EAC et de la SADC, réunis hier en sommet en Tanzanie. En pleine crise sécuritaire et économique, les Équatoriens votent aujourd'hui pour la présidentielle et les législatives. On parlera aussi d'un autre scrutin, cette fois au Kosovo, avec les législatives marquées par ces tensions avec le voisin serbe. Et puis on terminera en musique, on découvrira Grand Piano, le dernier album du français Mathieu Bogarts.
Trois semaines de trêve entre Israël et le Hamas. Cette trêve fait l'objet de nouvelles discussions aujourd'hui.
Israël envoie des négociateurs au Qatar au lendemain d'un cinquième échange d'otages israéliens et de détenus palestiniens. Échange sous haute tension. Hier, les trois otages israéliens, avant d'être libérés à Gaza, ont été présentés à la foule sur une estrade. Des otages émaciés, affaiblis physiquement. Les images ont choqué en Israël. En réaction, le Premier ministre israélien a dit qu'il allait réduire les quantités d'aide humanitaire livrées à Gaza.
Et tout cela contribue à affaiblir ce cessez-le-feu déjà très fragile.
Le Hamas a mis en garde contre un effondrement de la trêve et il dénonce des retards dans l'aide humanitaire et dans la libération de prisonniers palestiniens. 183 ont été libérés hier, dont une quarantaine en Cisjordanie, où ils ont été accueillis par leur famille. Reportage à Ramallah d'Abla Junaidi.
Au pied du centre culturel de Ramallah, les autorités israéliennes ont cherché à dissuader les familles de toute effusion de joie et de tout propos dans les médias. En vain, les pleurs des femmes angoissées se mélangent au rire et au youyou. À l'arrivée du premier bus, Oum Mohamed cherche du regard son frère, en prison depuis 16 ans.
La dernière fois que je l'ai vu, il était en mauvais état. Il était passé de 80 à 52 kilos. Il avait été hospitalisé pour une balle dans le bassin. On verra dans quel état il est. L'avocat m'a dit que ça allait, mais je veux voir de mes propres yeux.
Juché sur des épaules, un homme de 40 ans qui en a passé la moitié dans la prison militaire israélienne de Ofer harangue la foule.
Les prisonniers tiennent bon, n'ayez pas peur pour eux parce qu'ils sont comme des rocs, malgré la faim, malgré la douleur, malgré le fait qu'ils sont comme enterrés vivants. Ne vous en faites pas, tous les jeunes gardent le moral. Nous nous sacrifions pour notre libération, pour la victoire, notre tâche n'est pas terminée.
Gaza est sur nos épaules, poursuit l'ancien détenu. Aux prisonniers au front haut, que d'autres vous succèdent, chante une femme dans la foule. Abla Junaidi, Ramallah, RFI.
Et on retrouvera Abla Junaidi en direct. On reviendra sur la libération de ces prisonniers dans le journal de 7h, temps universel.
Et la Cisjordanie, où une ONG accuse Israël de mener des raids contre des familles de prisonniers. Le club des prisonniers palestiniens dénonce des agressions de l'armée israélienne contre ces familles dans la nuit de vendredi à samedi, soit juste avant la libération. Selon l'armée israélienne, il s'agissait simplement d'avertissements pour ne pas que ces familles, ses proches, ne manifestent leur joie, ne provoquent des scènes de liesse, ce qui s'apparenterait toujours, selon Israël, à des fêtes en soutien au terrorisme.
Deux mois après la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie, les combats se poursuivent dans le nord.
Entre des factions pro-turques et pro-kurdes, la ville de Manbij, dernière ville avant la ligne de front, est de plus en plus en proie à l'insécurité. Les attentats à la voiture piégée se multiplient, ce qui rappelle aux habitants des années sombres lorsque l'État islamique contrôlait la région. Reportage de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
L'explosion a eu lieu un matin, 6h30, le 4 janvier dernier. Ce jour-là, Dalal prend la route avec une vingtaine d'autres agricultrices, direction les champs d'oliviers dans lesquels elle travaille. Une voiture piégée garée sur le bord de la route explose sur leur passage. Un attentat de plus à Manbij qui fera au total 11 victimes, dont Dalal. Nédoua, sa tante, est encore sous le choc.
C'était la panique, tout le monde courait dans tous les sens. On ramenait des blessés et des morts, encore et encore.
Toutes les victimes de cet attentat vivaient dans le camp de déplacés de Al-Ras Magdar, en périphérie de Manbij. Les blessés ont été placés sous les tentes, comme Fawza. Elle est couchée sur un matelas à même le sol. Son visage est grièvement blessé, ses yeux boursouflés, ses bras tuméfiés.
Même quand je pouvais travailler, j'avais à peine de quoi m'acheter du pain. Désormais, je n'ai plus de quoi m'acheter des médicaments. J'ai mal et je n'ai plus d'antidouleur. Que Dieu soit avec moi.
Ces dernières semaines, les attentats à la voiture piégée se sont multipliés, 6 en 2 mois, provoquant la mort de 26 personnes, rapporte Abou Aymad, responsable de la sécurité générale à Manbij.
Nous avons établi un plan pour sécuriser la zone, renforcer les points de contrôle. Nous avons également mis en place des patrouilles qui circulent dans la ville jour et nuit, ainsi qu'une équipe de techniciens qui s'occupe de faire des contrôles sur les voitures suspectes.
Selon les services de renseignement du gouvernement, le PKK, groupe armé kurde, serait impliqué. 4 voitures chargées d'explosifs circuleraient encore dans la ville. Manon Chaplin à Manbij, RFI.
D'une même voix, le AC et la SADC demandent un cessez-le-feu dans l'est de la RDC.
Cessez-le-feu immédiat et inconditionnel réclamé par les pays membres des organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Ils étaient réunis hier en sommet à Dar es Salaam en Tanzanie, alors que les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Les organisations veulent aussi fusionner les médiations qu'elles menaient en parallèle à Luanda et Nairobi avec des résultats jusque-là mitigés, François Mazet.
Selon le communiqué final, ce sommet conjoint a réaffirmé la solidarité et l'engagement inébranlable de continuer à soutenir la République démocratique du Congo dans ses efforts de sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Les participants ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et pour le faire respecter, instruit aux chefs militaires des pays membres de se réunir dans les 5 jours sur les modalités techniques. Les deux organisations demandent la réouverture de toutes les voies de communication, y compris l'aéroport de Goma, le rapatriement des victimes et des blessés, et un dialogue, y compris avec les acteurs non étatiques, dont le M23. En ouverture, le président kényan Ruto avait demandé au groupe armé de cesser toute progression et à l'armée congolaise d'éviter toute mesure de représailles. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a qualifié le sommet de succès. Kigali n'est jamais pointé du doigt. Paul Kagame avait fait le déplacement à Dar es Salaam. Félix Tshisekedi, lui, a suivi les débats par vidéoconférence. La présidence congolaise a salué une série d'importantes décisions qui répondent à l'urgence humanitaire et aux besoins pressants d'une désescalade.
François Mazet, au Mali, au moins 25 morts dans l'attaque d'un convoi civil escorté par l'armée et les paramilitaires du groupe Wagner. Ça s'est passé dans la région de Gao, dans le nord, embuscade attribuée à des djihadistes. Si l'armée déplore 25 morts des civils, certaines sources locales font état de 32 morts civils et militaires. En Équateur, élection générale aujourd'hui avec la présidentielle et les législatives. Pour la présidentielle, le sortant Daniel Noboa devrait se qualifier au second tour face à l'opposante de gauche, Luisa González. Le fléau du narcotrafic, de l'insécurité se retrouve au cœur du scrutin. Ce pays d'Amérique latine, autrefois considéré comme sûr, était considéré l'an dernier comme le deuxième pays le plus dangereux du continent.
Autre élection ce dimanche, Marion, cette fois sur le continent européen.
Au Kosovo, l'un des plus petits pays d'Europe aussi, l'un des plus pauvres, les électeurs choisissent leurs 120 députés. Le Premier ministre est le favori, Albin Kurti, est populaire, notamment avec sa politique de fermeté face à la Serbie, qui ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Albin Kurti, de plus en plus isolé, toutefois, les Occidentaux lui reprochent d'avoir rompu le dialogue avec Belgrade. L'opposition, elle, l'attaque sur son bilan économique, mais tout cela ne devrait pas l'empêcher de gagner largement dans les urnes, comme l'explique Florent Marciac, co-directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès.
C'est un intellectuel qui est engagé depuis très longtemps dans la politique. Il était dans l'opposition pendant très 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 longtemps. Les dernières élections, déjà, ont montré que le mouvement qu'il dirige était très 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 dominant dans la population. Et ça reflète une déception à l'égard des autres partis aussi, qui n'ont pas pu pousser l'agenda de reconnaissance en particulier du Kosovo et de contrôle du territoire du Kosovo par l'État central. Et il l'a fait ces dernières années. Il est très populaire dans la population. Il est soutenu. C'est au moins une personnalité qui a eu un engagement et qui a eu des résultats en matière de lutte de la corruption, de l'état de droit, de la bonne gouvernance. Ça, on peut le saluer. C'est un des rares états dans la région, ou c'est probablement le seul, qui a progressé en matière d'état de droit et de démocratie. Il est souvent considéré comme porteur d'un certain nationalisme, maintenant de plus en plus une forme de populisme. Cette popularité de M. Kurti, elle se nourrit du manque de positionnement de l'Union européenne vis-à-vis du Kosovo, du manque de soutien vis-à-vis de la question de reconnaissance nationale, et c'est vrai que c'est une forme de frustration qu'ils expriment.
Le spécialiste des Balkans, Florent Marciac, avec Carlotta Morteo. Donald Trump dit avoir parlé avec son homologue russe. Dans le New York Post, le président américain dit avoir appelé Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine. Il n'a pas donné beaucoup plus de précisions. Déjà, plus tôt, Donald Trump a affirmé qu'il comptait s'entretenir la semaine prochaine, probablement, avec le président ukrainien.
Et l'un des plus grands soutiens de Donald Trump, Elon Musk, traverse une mauvaise passe côté affaires.
Sa société Tesla a passé une très mauvaise semaine. Ses actions ont chuté lourdement, moins 25% par rapport à décembre. Tesla subit probablement les positions politiques de son PDG, mais surtout, Alexis Bédu, la mauvaise santé du marché de la voiture électrique.
S'il parade chaque jour sur les questions politiques, Elon Musk se fait rappeler à l'ordre sur le terrain économique. Et la douche en ce début d'année est particulièrement froide. Les ventes sont faibles en Europe, plus bas niveau depuis 4 ans. Elles s'écroulent en Chine, livraison en baisse de plus de 11% cette semaine, alors que son concurrent chinois BYD affiche sa meilleure semaine en bourse depuis 2020. Cela fait suite à un mois de janvier également catastrophique, avec par exemple des ventes en baisse de 63% en France et 40% en Norvège, le pays de la généralisation de la voiture électrique. Alors comment expliquer ces mauvais résultats? La proximité d'Elon Musk avec Donald Trump n'est pas à négliger d'après les experts du marché mondial, mais il est encore trop tôt pour mesurer le véritable impact d'un potentiel boycott de la marque, les provocations les plus importantes comme le salut nazi du milliardaire étant particulièrement récentes. Non, Tesla, comme les autres constructeurs, souffre de la stagnation du marché de l'électrique après une année 2024 décevante et un rebond qui se fait toujours attendre.
Alexis Bédu.
Et puis de la musique pour terminer, Marion. 50 nuances de piano avec Mathieu Bogart.
Piano électrique, piano droit, le chanteur français Pianota tout va dans son dernier album, le 9e, appelé Grand Piano, et qui marque ses 30 ans de carrière. Un aperçu avec Edmond Sadaka.
Dans une case, tu m'aimes.
Si les concerts de Mathieu Bogart se jouent à guichets fermés depuis 30 ans, son nom reste relativement peu connu du grand public. Il est vrai que son unique vrai tube, ondulé, date de 1996. Le disque de 12 titres qu'il vient de sortir comprend des chansons faussement naïves. Il y partage ses questionnements autour de thèmes comme la paternité ou la vieillesse.
Le temps qui passe et qui avance, et ça m'angoisse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ma jeunesse?
Cet album est né de voyages. Le chanteur de 54 ans dit l'avoir écrit entre Londres, Paris, Istanbul, Amsterdam ou encore Budapest. Les textes, comme toujours, sont très bien ciselés. Côté musique, le groove est bien présent. Tout cela donne un disque sensuel, mélancolique et d'une rare élégance.
Pareil de l'autre côté, si je m'éloigne, si je m'en vais, il y aurait...
Mathieu Bogart entame une tournée dans toute la France, Julien, avec notamment une date parisienne le 7 mars au Théâtre de la Ville.
C'est bien noté, merci Marion Cazaneuf, c'était le journal. Il est 6h12 en temps universel et tout de suite c'est le journal des sports. Avec vous Antoine Grenier, en football, Marseille conclut ce dimanche la 21e journée de Ligue 1.
L'OM en déplacement sur la pelouse d'Angers, le premier d'une série de matchs abordables face à Saint-Étienne ou Auxerre pour les Phocéens. L'occasion pour Marseille de conforter sa deuxième place et distancer les autres prétendants au podium. Un virage à ne pas manquer donc, prévient le Brésilien Luis Enrique.
Est-ce que si, con certeza, a gente...
C'est vrai, le calendrier est bon. À nous de profiter de cette période. On a du temps pour travailler et analyser les équipes. Il faudra donner le maximum sur ces matchs, être le plus concentré possible. C'est une série importante qui arrive. À nous d'être performants, de prendre des points pour atteindre notre objectif, la qualification en Ligue des Champions. Il faut être concentré sur cette série. Ce sont des matchs importants.
Je pense que ça va être très important pour nous d'être concentrés sur nos jogos até o final.
Angers-Marseille, coup d'envoi 19h45, temps universel. Avant ça, à 14h TU, Lyon accueille Reims. Avant qu'à 16h15, temps universel, Auxerre ne reçoive Toulouse et Strasbourg n'accueille Montpellier. Hier, Nice a dominé Lens 2-0. Le Havre est allé s'imposer sur Lille 2-1 et Rennes a battu Saint-Etienne 2-0.
En Espagne, 23e journée de Liga et pas de vainqueur dans le derby madrilène.
Le Real Madrid s'en est remis à Kylian Mbappé pour égaliser juste après l'ouverture du score de Julian Alvarez pour l'Atlético. Un partout partout. Score final, résultat décevant pour le latéral Lucas Vázquez qui pense déjà au match de mardi face à Manchester City en barrage de Ligue des Champions.
Nous sommes toujours en tête. Le résultat est insuffisant parce qu'en deuxième mi-temps, on a été meilleurs. Nous avons eu moins de mal à aller dans leur camp. On a attaqué de partout. À un but partout, on s'est créé beaucoup d'occasions. C'était très serré. En première période, je pense qu'on a manqué de précision dans les derniers mètres. En seconde, c'était mieux. On a pressé plus haut sur le terrain. On a récupéré les ballons. Manchester City, c'est une grande équipe. Je pense qu'ils jouent le même football qu'il y a quelques années. Et ça va être deux superbes matchs. Nous, on a montré ce que l'on est capable de faire. On est sur la bonne voie et prêt pour ce qui nous attend. Ce mois-ci, le prochain, c'est là que tout se décide et nous allons tout faire pour réussir à obtenir quelque chose.
Lucas Vázquez avec Pierre Chaperon, le Real qui pourrait voir le Barça revenir à deux points si les Catalans s'imposent sur le FC Séville ce dimanche.
On termine avec le rugby et le rêve de grand chelem qui s'envole pour le 15 de France.
Battu par l'Angleterre 26-25, les Bleus peuvent regretter leur maladresse. L'essai d'Eliot Daly à la dernière minute et la transformation de Marcus Smith ont crucifié des Français dominateurs, mais qui auront manqué trop d'occasions, regrettait leur capitaine Antoine Dupont.
On peut s'en prendre qu'à nous, on a surtout la première mi-temps qui a beaucoup de regrets, on doit marquer au moins 3 essais et le match est le même après. Ils ont été pragmatiques, ils ont marqué à chaque fois qu'ils sont venus chez nous et nous on a mangé trop d'occasions. On sait qu'à ce niveau-là, si on ne les met pas au fond, on ne gagne pas le match à la fin. Oui, le ballon glissait beaucoup, mais bon, on a déjà fait des 3 matchs et des entraînements avec un ballon qui glissait. Donc je ne sais pas pourquoi ce coup-ci ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas c'est beaucoup de regrets parce qu'on a, je pense qu'on a produit un beau rugby, qu'on les a mis en danger beaucoup de fois, mais malheureusement on n'a pas marqué assez.
Antoine Dupont chez nos confrères de France Télévisions, ce dimanche, fin de la deuxième journée de ce tournoi destination avec Écosse-Irlande à 15h temps universel.
Et merci Antoine Grenier. Et après les échanges entre grandes figures de l'IA ce week-end à Paris, le coup d'envoi demain du volet dirigeant du sommet mondial sur l'intelligence artificielle, tous les projecteurs seront braqués sur les applications et les nouveaux acteurs de ce secteur révolutionnaire. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Julien.
Si les champs de bataille ne sont pas encore peuplés de robots tueurs, les algorithmes d'intelligence artificielle se font une place grandissante dans les systèmes d'armes.
Radar hyper adaptif, nourri au deep learning, cartographie, acquisition de cibles, partage automatisé d'informations et drones d'attaque construits autour d'un logiciel dopé à l'IA, la guerre d'Ukraine sert de laboratoire. L'agence ministérielle de l'IA de défense, la MIAD, créée l'an dernier, a pour mission justement de permettre à la France de maîtriser souverainement l'intelligence artificielle de défense pour ne pas être en retard d'une guerre, dit son directeur Bertrand Rondepierre.
La guerre en Ukraine, c'est quand même un laboratoire en matière de drones justement. Il y a énormément de choses qui sont en train de faire en matière d'autonomie, d'accomplissement de missions, à la fois sur de la reconnaissance et aussi sur des munitions téléopérées, donc des drones qui font ensuite des frappes. C'est un constat que la guerre évolue. On est vraiment sur une mutation, par exemple, massification de drones pas chers versus des gros objets très chers. C'est pas que l'un soit supérieur à l'autre, mais c'est une vraie question qui se pose. Et donc ça, c'est une mutation qu'il faut prendre en compte et qu'il faut suivre.
Helsing, jeune pousse française, a ainsi développé l'HX2, un nouveau type de drone d'attaque, capable de détruire avec précision des objectifs d'artillerie, des blindés, tout en résistant au brouillage adverse. L'entreprise, nous dit son fondateur, Antoine de Braquilange, a répondu à l'appel du général ukrainien Valery Zaloujny pour obtenir de ces entreprises venues du civil une percée technologique.
L'entreprise a annoncé un certain nombre de partenariats et de contrats pour les Ukrainiens, pour offrir finalement aux Ukrainiens cette masse à bas coût, c'est-à-dire un grand nombre d'objets produits rapidement, dont le prix unitaire finalement est assez faible, mais qui est avec de l'IA et donc un peu plus d'intelligence. Ce paradigme est fondamentalement nouveau par rapport à des approches de développement capacitaire très long terme, où on déploie et on développe des plateformes très complexes, surspécifiées, et en fait finalement assez peu agile en termes de développement logiciel et d'IA.
Franck, l'intelligence artificielle remodèle l'art de la guerre et s'impose comme l'allié indispensable face au déluge d'informations dont disposent les armées.
L'IA pour plus de vélocité, mais pas que, indique Marc De Fritsch, directeur de Massa, leader mondial des logiciels pour l'entraînement des états-majors.
Accélérer la décision, mais c'est aussi proposer d'autres solutions et c'est de tester
les solutions. C'est là, à mon avis, qui est le plus gros enjeu, parce qu'on peut gagner du temps, mais finalement, si on arrive au même résultat, on a juste gagné du temps. Le fait, par exemple, d'avoir une simulation connectée au système d'information et de commandement et de pouvoir tester la solution que l'on envisage dans une simulation et de la réinjecter dans les systèmes de commandement, là, c'est un énorme avantage.
Les systèmes existent donc, reste à les fabriquer en masse, et c'est le cas pour les drones équipés d'IA. Antoine de Bréquilange.
Comment est-ce qu'on fait pour se préparer à ça? Comment est-ce qu'on passe à l'échelle industrielle? Quel modèle de production et de supply chain logistique pour être capable de monter en cadence de production de ces drones par milliers, dizaines de milliers? Pour la France, mais aussi à l'échelle européenne, est une vraie question de volonté, de politique industrielle, où on pense qu'on a des solutions aujourd'hui. On a des projets entrepreneuriaux comme le nôtre chez Helsing, qui propose des solutions souveraines au niveau national, mais sur un modèle européen, pour que le jour J, on puisse produire à l'échelle des objets et en toute autonomie stratégique.
Voilà, les entreprises de l'IA de défense, Julien, plaident donc pour la création d'un Airbus du secteur. Ce sera l'un des enjeux du sommet de Paris.
Franck Alexandre, ligne de défense, merci beaucoup. C'est aujourd'hui en Suisse une votation populaire sur un texte des Verts qui propose de limiter la taille de l'économie suisse aux ressources planétaires. Rien d'exceptionnel, puisqu'en Suisse, c'est une habitude qui se répète tous les 3 mois. Dans un pays qui fait figure d'exemple en matière de démocratie directe, le recours au référendum est très fréquent, plus que partout ailleurs. Comment ce mode de scrutin est-il utilisé d'ailleurs à travers la planète? C'est notre tour du monde des correspondants qu'on commence donc en Suisse, où les votations sont considérées comme une respiration démocratique et où elles sont aussi vieilles que la Confédération helvétique moderne, Jérémy Lanche.
Oui, les premières votations datent de 1866, moins de 20 ans après la création de la Suisse fédérale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, quand on parle de votation ici, on parle de plusieurs choses. Le référendum obligatoire, ça c'est quand le Parlement veut modifier la Constitution. Le référendum facultatif, là c'est quand des citoyens veulent abroger une loi. Et puis, ce qu'on connaît le plus à l'étranger, ce sont les fameuses initiatives populaires. Là, il n'y a quasiment aucune limite à l'imagination. Pour qu'un texte soit soumis au vote, il faut juste qu'il récolte 100 000 signatures. Il est accepté s'il obtient la double majorité des électeurs et des cantons. Alors l'avantage du système, c'est que quand les Suisses décident quelque chose, eh bien tout le monde s'y tient plus ou moins. L'inconvénient, parce qu'il y en a un, eh bien c'est qu'à force de voter tout le temps et sur tous les sujets, la participation est assez faible, moins de 50% en moyenne, et elle devrait être encore plus basse ce dimanche.
Jérémy Lanche, en Suisse, pays du référendum, une pratique à l'inverse peu courante en Afrique du Sud, même si dans le pays eu un vote populaire a marqué l'histoire, et pas qu'un peu. Le référendum sur la fin de l'apartheid en 1992, alors que le président de l'époque, Frédéric de Klerk, avait levé l'interdiction du Congrès national africain, l'ANC, 2 ans plus tôt, et permis la libération de Nelson Mandela. À l'époque, le vote était encore réservé à la population blanche, Valentin Hugues.
17 mars 1992, dernier vote blanc en Afrique du Sud. Soutenez-vous la poursuite des réformes engagées par le président qui vise à l'élaboration d'une nouvelle constitution par la négociation? C'est le oui qui l'emporte avec près de 70% des voix. La population blanche, seule autorisée à voter, se prononce donc en faveur de la fin des lois racistes et ségrégationnistes de l'apartheid. Un vote qui traduit une volonté de faire confiance au président de Klerk plus qu'un large enthousiasme pour mettre fin au régime d'apartheid, car ce référendum a lieu au cœur d'une bataille politique entre le parti au pouvoir et les conservateurs. Frédéric de Klerk sait désormais que la minorité blanche le soutient, notamment parce qu'il incarne la paix et la stabilité face à l'extrême droite qui gagne du terrain. Au moment d'annoncer les résultats, il déclare « Aujourd'hui, nous avons refermé le livre de l'apartheid ». 2 ans plus tard, les premières élections mixtes ont lieu. Le vote n'est plus réservé aux blancs. L'Afrique du Sud est une démocratie et l'ancien prisonnier politique Nelson Mandela devient président.
Valentin Hugues, en Afrique du Sud, et quand référendum ne rime pas forcément avec progrès démocratique, on part à présent en Turquie, où le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 23 ans, y a recouru à 3 reprises, à chaque fois pour réviser la constitution, et à chaque fois avec une victoire du oui. 3 fois en 23 ans, à Nandlower, c'est peu pour un dirigeant qui se revendique sans cesse de la volonté populaire.
Oui, mais chacun de ces référendums a eu des conséquences profondes. Celui de 2007 a instauré l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Première entaille dans le régime parlementaire turc, la mesure a été appliquée pour la première fois en 2014. Recep Tayyip Erdogan, premier ministre jusqu'ici, est donc devenu le premier président turc élu par le peuple. Le référendum de 2010, sous couvert de démocratisation, lui a permis d'installer ses fidèles dans toute la magistrature, ou du moins ceux qu'il pensait être ses fidèles, en l'occurrence des disciples du prédicateur Fethullah Gulen, qui ont été à l'origine du coup d'État manqué mais sanglant de juillet 2016. Enfin, en 2017, un troisième référendum a abouti à l'avènement d'un régime présidentiel fort dans lequel le chef de l'État contrôle les autres pouvoirs. Mais cela ne suffit pas à Recep Tayyip Erdogan, réélu en 2023 théoriquement pour la dernière fois. Il envisage désormais une autre révision de la Constitution pour pouvoir se représenter.
Alan Glover en Turquie. Et puis dernière étape dans un pays où le référendum est une institution, l'Irlande, où de nombreuses batailles sociétales y ont été remportées par référendum. D'ailleurs, depuis l'adoption de la Constitution irlandaise en 1937, il faut obligatoirement un vote pour la modifier, Clémence Pénard.
Les Irlandais ont pris goût à ce pouvoir direct. Depuis 1937, l'Irlande a organisé 40 référendums. L'un des plus marquants, évidemment, c'était en 2015 sur le mariage homosexuel. L'Irlande était le premier pays à le légaliser par référendum. En 2018, les Irlandais votaient massivement en faveur de l'avortement. En 1995, le divorce était légalisé. Les référendums ont donc transformé ce pays autrefois très conservateur. Dernière en date, en mars 2024, un double référendum visait à balayer un article sexiste de la Constitution faisant référence au devoir des femmes à la maison. Mais celui qui revient régulièrement dans le débat politique ici et surtout depuis le Brexit, c'est le référendum sur la réunification de l'Irlande avec la province britannique d'Irlande du Nord. D'ici quelques décennies, l'avenir de l'île tout entière pourrait elle aussi se jouer dans les urnes.
Clémence Pénard à Dublin et notre tour du monde des correspondants que vous retrouvez sur RFI.fr. Bientôt 6h30 en temps universel et sur RFI avant le journal, c'est dans ta nature. Nous parle aujourd'hui de cette découverte étonnante au fond de la Seine à Paris. Trois espèces de moules qu'on croyait disparues. Un signe de plus de la meilleure santé du fleuve qui traverse la capitale française. Florent Guigneur.
Le clapotis des vagues, sur un quai de Seine à Paris, un bateau-mouche vient de passer entre l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. C'est ici, à quelques mètres, quelque part au fond de l'eau boueuse, qu'on a détecté des moules. Trois espèces de moules d'eau douce qui avaient disparu et qui sont menacées en France.
Évidemment, on ne s'attendait pas du tout à les retrouver dans un endroit aussi anthropisé que le centre de Paris.
C'est lui, Vincent Prier, spécialiste des mollusques aquatiques, qui a identifié ces moules grâce à une technique révolutionnaire, l'ADN environnemental. Il est chargé de projets au laboratoire Spigen.
Chaque organisme perd des centaines de millions de cellules, essentiellement de peau, par jour. Et chacune contient notre ADN. Avec des techniques qui sont proches de celles de la police criminelle, on arrive aujourd'hui à l'extraire de l'environnement et à le séquencer.
Depuis que les poissons se rebaignent dans la Seine, trois espèces il y a 50 ans, 12 fois plus aujourd'hui, les moules aussi font leur retour.
Ces bêtes-là sont tributaires de poissons hôtes, justement. C'est-à-dire qu'elles émettent une larve qui va être parasite des branchies de poissons pendant quelques semaines. Et puis après, la petite moule tombe. Donc ce qu'elle nous raconte quand même, c'est que les efforts qui ont été faits pour améliorer la qualité de l'eau portent leurs fruits.
Les moules d'ailleurs participent un peu à la qualité de la Seine puisqu'elles filtrent chaque jour 40 litres d'eau. La pollution lumineuse favorise le phytoplancton dont les moules se nourrissent. Mais combien sont-elles au juste, Vincent Prier ?
On n'est probablement pas sur des tapis de moules d'eau douce comme il y avait il y a quelques siècles. L'ADN environnemental, c'est un peu comme une odeur, c'est un peu comme si on les flairait. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est les voir. Qu'est-ce qu'elles ont trouvé de favorable dans la Seine, sachant qu'on les connaît plutôt dans des rivières un peu sauvages, quoi. Et on aimerait beaucoup avoir l'occasion de plonger dans la Seine pour vérifier tout ça.
Allez, on passe à la question.
Ok, la Saint-Valentin, c'est vendredi, mais c'est quoi le rapport avec la nature ?
Eh bien, la fête des amoureux, tous les 14 février, remonterait au Moyen-Âge, en Angleterre, où on a longtemps cru que les oiseaux s'accouplaient le 14 février. Bon, les pigeons à Paris, on a l'impression qu'ils n'arrêtent jamais, mais la mi-février marque que c'est vrai le début de la saison des amours pour certaines espèces, comme le merle. Et c'est donc le début du printemps pour les naturalistes. Officiellement, le printemps, c'est le 20 mars, le printemps astronomique, alors que le printemps météorologique, lui, démarre le 1er mars. Vous me direz, il n'y a plus de saison. Oui, peut-être, mais il y a toujours plein d'amour. Le plus joli jour, Saint-Valentin, la fête de l'amour.
Florent Guignard pour C'est dans ta nature, votre rendez-vous du dimanche et l'info qui revient dans une trentaine de secondes. À tout de suite.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Après Radio Foot International toute la semaine, Mondial Sport le week-end. 50 minutes ensemble pour partir à la découverte de nombreuses disciplines aux quatre coins du globe. Invités, reportages, débats, discussions, découvertes. Rendez-vous tous les samedis et tous les dimanches sur la Radio du Monde à 16h10, temps universel.
C'est sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI Pure Radio.